Bienvenue comme chaque semaine à l'écoute d'Alter Echo, Olivier au micro et à la technique nous avons Marc de l'émission Sisyphus qui vient de se terminer et qui nous a fait le plaisir de rester avec nous. Alter Echo, c'est chaque semaine sur Radio Campus, le mercredi soir de 22h à 23h. La rediffusion a lieu le vendredi de 14h à 15h. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver l'émission avec ses textes et ses sons ou l'émission en son intégral sur le site internet dont je vous donne l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Après une semaine d'interruption pour cause de vacances et de farniente, Alter Echo revient cette semaine en force et en beauté. Nous allons parler évidemment des élections américaines qui ont vu la victoire de personne à l'heure où nous mettons sous presse, comme disent les journaux. Nous essayerons néanmoins d'en tirer quelques enseignements éclairants. Pour le reste, nous écouterons Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, délicieuse petite publication bien teigneuse. Il nous parlera notamment de l'influence qu'ont les industriels sur les médias. Mais pour commencer, place à nos invités de la semaine qui sont Thierry et Gladys qui viennent du Venezuela. Ils viennent nous parler de la situation politique notamment, mais surtout d'un projet média de télévision indépendante qu'ils lancent dans la ville de Maracay où ils sont résidents. Tout d'abord, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Je précise tout de suite que Gladys ne parle que l'espagnol et que donc Thierry, qui est son compagnon, nous traduira ses propos. Bonsoir Thierry, bonsoir Gladys.
Bonsoir.
Buenas
Voilà, si vous pouviez commencer par vous présenter. Thierry, toi tu es belge, tu vis au Venezuela. Raconte-nous un peu ton parcours personnel.
Une expérience que j'ai vécue en Amérique centrale dans les années 80 m'a permis, à part de mener un travail d'éducation populaire sur les médias justement, comme tu le fais ici, m'a permis également de rencontrer des amis vénézuéliens, c'est-à-dire une amitié qui a perduré à travers l'océan pendant quelques années, suffisamment pour que je retourne dans les années 90 là-bas, avec la même idée, c'est-à-dire de mettre dans les mains des secteurs populaires le langage de l'image et du son, et à partir de là, bien sûr, créer une image qui n'existait pas.
Et Gladys, est-ce que tu peux te présenter?
¿Podrías presentarte?
Bueno, yo soy Gladys y soy venezolana y vivo en
Je
Venezuela.
suis Gladys et je suis vénézuélienne.
Y bueno, trabajo con unas organizaciones de mujeres
Je travaille avec une
populares en
organisation de femmes
los barrios de
populaires dans
Maracay.
les quartiers de la ville de Maracay.
Apoyamos procesos organizativos de mujeres.
Nous appuyons des processus d'organisation de femmes
A función de que la mujer se organice
pour que la
y
femme
pueda
puisse
buscar propias
s'organiser et
alternativas
trouver des
de
alternatives
producción, un
quant à la
poco para
production.
hacer frente a la crisis
C'est une
económica
manière en fait d'affronter la
que
crise
vive
économique
actualmente Venezuela, ¿no?
qu'affronte
Y
actuellement le Venezuela lui-même.
además de eso, estamos al frente de una televisora comunitaria
Par cela,
que está
je suis
dirigida
dans l'équipe de direction d'une
generalmente por
télévision
mujeres,
populaire
como un medio para apoyar procesos
où les femmes
organizativos de
voient
las
également
mujeres
un
y de la
moyen
comunidad en
de
general.
renforcer leur organisation et celle de la communauté en général.
Alors, avant de parler de votre situation personnelle ou particulière et de votre média, je pense qu'il est important de faire un croquis de la situation qui prévaut au Venezuela et qui est vraiment très particulière. En fait, on a vu arriver au pouvoir, il me semble, en décembre 98, un personnage assez controversé qui s'appelle Hugo Chavez. Mais je pense que la première chose à faire, ce serait plutôt d'esquisser la situation comme elle était avant et qui était assez particulière aussi.
Et Gladys, comment podrías esbozar un poco la situación anterior a Chávez? Et comment pourrais-tu esquisser un peu la situation qui a précédé l'arrivée au pouvoir de ce militaire Hugo Chávez?
Bueno, en todo caso, Venezuela es un país muy atípico, en
Venezuela,
lo
c'est
que
un
se
pays
refiere a
très
América Latina,
atypique en Amérique
con
latine.
una imagen de país rico,
Il a
petrolero,
l'image d'un pays riche à
y
cause
con
du
una
pétrole
democracia,
et
supuestamente
démocratique en principe.
democracia, muy estable. Sin embargo, los dos partidos políticos que han
Cependant,
gobernado
le
Venezuela
bipartisme
durante los 40
traditionnel qui a
años,
duré depuis environ 40 ans,
después de la democracia, realmente han acrecentado y han
n'a
hecho
fait
de
que
Venezuela un país
accentuer toutes sortes de
donde hay un
problèmes
10% de la
qui
población que
sont notamment
recibe
que
la
seuls
riqueza producto
10% de la population
de la venta del petróleo y de las
reçoit
otras
l'argent du pétrole.
relaciones comerciales que tiene Venezuela con otros países, y tenemos una población donde hay un
Et il y a
80%
une très
de
grande
pobreza.
population de pauvres qui atteint pratiquement 85%.
Esa era la situación
C'était donc la
anterior
situation
a este
qui
gobierno
précède
y
l'arrivée au pouvoir de Chavez,
todavía
qui perdure
prevalece
actuellement
todavía.
d'ailleurs.
Y
Désolé de t'interrompre, on peut préciser aussi que ce bipartisme n'était pas du tout un bipartisme d'alternance, mais que c'était un bipartisme où finalement les deux partis se ressemblaient beaucoup et c'était d'ailleurs partagé tout le pouvoir entre deux. Et finalement, c'était un parti unique divisé en deux pôles.
Podemos hablar de un bipartidismo así de fachada, ¿no? Y que pense que se tourna, ¿no? On peut donc parler d'une façade.
Sí, exactamente, exactamente
Oui,
eso,
exactement.
eso ha sido hasta el momento. Y con Hugo Chávez se
Et
rompe con
Hugo
esa
Chávez
estructura
veut rompre en fait cette structure
vertical y que
qui est
estaba fosilizada
verticale,
en
fossilisée.
Venezuela, donde la corrupción y el descaro, la
Marqué par la
impunidad, la
corruption,
violación de derechos
l'impunité, la
humanos
violation des
era un
droits de
modo de
l'homme,
vida.
tout cela était une sorte de mode de vie jusqu'ici.
¿Y ça a duré combien de temps tout ça?
¿Cuántos años duró esto?
40 años
40 ans.
después de las dos dictaduras anteriores que tuvo
Après les
Venezuela.
deux longues dictatures classiques qu'avait connues le Venezuela.
Alors arrive soudain Chavez. Avant de parler de sa prise de pouvoir, on peut peut-être expliquer qui est cet homme et d'où il sort?
Hugo Chavez, c'est un militaire bolivarien et c'est une donnée importante pour le comprendre parce que Bolivar, c'est un peu une sorte de De Gaulle, puissance 3 pour l'Amérique latine, un nationalisme donc inspiré par l'idée d'intégration latino-américaine mais aussi de justice sociale. C'est une sorte de génération de militaires qui apparaît dans les années 60 au Venezuela quand ceux-ci se forment au contact des universités, des meilleures universités du pays, et acquièrent donc une sorte de vision intellectuelle aussi de la société et cessent d'être une force purement répressive. Chavez, donc, avec ses amis bolivariens, conçoit un projet de nation qui serait bien différente de la démocratie, entre guillemets, dont on vient de parler, qui était très corrompue, et rêve alors, à travers un premier coup d'État, de renverser cette élite pétrolière.
Coup d'État qui a eu lieu en 1992, c'est bien ça?
Exact. À partir de là, les années de prison n'ont fait
Donc, oui, je
qu'approfondir.
précise qu'entre-temps, le coup d'État a échoué et que Chavez s'est
Oui,
retrouvé en prison.
exactement. Les années de prison qu'il a connues ont lui permis sans doute d'approfondir ce projet politique et aussi de faire croître une certaine image un peu messianique dans la population pauvre. Ce qui lui a permis finalement de jouer la carte électorale et d'arriver par les urnes à la présidence de la République.
Et de façon assez spectaculaire.
Oui, c'est un raz-de-marée, 60 à 70% dans les diverses élections qui l'ont confirmé donc à la présidence, dans la mesure où entre-temps il a aussi rédigé une nouvelle constitution. Mais l'appui populaire reste. Même si c'est un appui plus sentimental qu'organisé, c'est une espèce de réaction de la population à ces 40 ans de rage contenue, d'écrasement de toute initiative par ces vieux partis qui sont un peu comme le poulpe mexicain qu'a été le prix à sa manière. Donc les gens voient dans Chavez très affectivement une planche de salut, une manière enfin de retrouver le pouvoir politique comme façon de remettre une nation sur ses rails et de donner la priorité à des programmes plus sociaux, en tout cas.
Justement, c'est un peu le côté énigmatique pour le consommateur de médias européens, c'est qu'on a de Chavez une image extrêmement bipolaire en quelque sorte. D'une part, il y a les médias traditionnels. Quand Chavez est arrivé au pouvoir, je me rappelle qu'il était effectivement décrit pour les Vénézuéliens comme quelque part messianique, mais surtout populiste et despote en puissance, dictateur en puissance. On a surtout insisté sur le fait qu'il avait renvoyé le Parlement chez lui, qu'il avait aboli la Constitution. Pardon. et qui faisait finalement une table rase de la vie politique de son pays, aussi du fait d'un certain népotisme qu'il installait, par exemple, sa femme dans l'Assemblée constituante, où il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et d'autre part, on lit dans la presse toujours occidentale, mais alternative cette fois, et en particulier dans le monde diplomatique, des éloges tout à fait dithyrambiques de Chavez, comme quoi il serait l'homme providentiel qu'il faut absolument au Venezuela et presque à tous les autres pays. Donc, je suppose que, comme toujours, la vérité se situe quelque part entre les deux. Où exactement?
Les mots et les images cachent la réalité dans ce cas-ci parce que, au fond, l'Amérique latine n'est jamais rentrée totalement dans les catégories européennes et il y a toujours une espèce de retard de la compréhension. L'Europe n'a jamais vraiment découvert l'Amérique latine qui reste, au fond, une très grande boîte de Pandore. Chavez, curieusement, alors qu'il est un militaire, alors qu'il s'appuie sur l'armée et qu'on pourrait donc parfaitement en attendre les pires choses, curieusement, c'est peut-être le plus démocrate des présidents, puisque si on compare avec ce que faisaient les présidents précédents, c'est-à-dire d'envoyer la garde nationale tirer sur tout ce qui pouvait être paysans qui envahissent des terres en jachère ou gens qui occupent des immeubles abandonnés, contrairement à tout ces présidents soi-disant démocratiques, c'est le premier qui a dit non, l'armée ou la garde nationale, ça ne sert pas à tirer sur nos compatriotes. Et ces gens-là sont dans une situation de pauvreté. Donc, juste cet exemple pour te dire qu'il fait plutôt une pédagogie de la démocratie et qu'effectivement, l'image dont tu parles est très curieuse parce que il ne s'agit ni de l'encenser parce qu'il a ses limites, mais il est tout à fait contraire à la réalité. Et la moindre analyse le montre bien, de le considérer comme un dictateur. Je crois qu'il n'y a aucune raison de lui appliquer des images passées. Il faut analyser le présent et dans toute sa complexité.
Pardon. Alors en tout cas, côté médias au Venezuela, c'est une situation tout à fait particulière qui prévaut. C'est une question pour vous deux. Puisque finalement les médias sont inféodés en quelque sorte ou appartiennent tout simplement à la classe possédante, et on a entre guillemets un dictateur au pouvoir, mais les médias lui sont hostiles, ouvertement. Alors en général, c'est quand même plutôt le contraire.
¿Qué comentario haces tú de esta oposición fuerte entre los medios dominantes que critican muchísimo a Chávez y su propio proyecto político? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la confrontación y qué ves ahí?
Ce qui est au passage d'ailleurs une preuve que les médias sont totalement libres en tout cas.
Prueba además, dicho de paso, que los medios están libres.
En todo caso, es porque los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones en el país, en las telecomunicaciones en
En
el
tout
país,
cas, si on prend
son propiedad
l'aspect
de los
des
grupos
télécommunications
económicos,
au Venezuela, il faut
del
effectivement
país,
d'abord
¿no? De
voir
los
quels
grandes
sont aux mains
capitales y
de
de la
grands
burguesía y la clase
entrepreneurs
media.
capitalistes
Y por
classiques
supuesto
qui
que el
possèdent les
discurso de
capitaux
Chávez
des
y hasta el momento la
télévisions
gestión
et
ha
de la
sido
presse.
un poco más popular, un poco más
Alors qu'évidemment,
arraigada
le
dentro de
projet de
las bases
Chávez
populares. Y
est
por
beaucoup
supuesto
plus
que por primera vez se pone en
ciblé sur
cuestionamiento
les
la
couches
actuación de los
populaires
medios de
et
comunicación y se está tocando por
l'attitude
primera vez los
des
intereses
médias
de la
dans ce
burguesía y de la
sens-là,
clase media,
c'est une
quienes
réaction
son
au
los
fait que
dueños de los medios de
Chávez
comunicación.
attaque
Entonces, es
ou en tout cas
lógico que
déplace
los
et
medios de
dérange pas
comunicación
mal d'intérêts
estén en
de ce
contra, ¿no?
milieu
De
socio-économique
la gestión,
qui possède
aparte
les
de
médias.
eso, un poco el gobierno no ha intervenido con relación a eso, porque bueno, hay una libertad plena
Il
en
y
cuanto que
a
tiene que ver con la
effectivement
actuación
un
de los medios
laisser-faire de la
de
part du
comunicación. O
gouvernement qui a plusieurs
sea,
fois déclaré
cada quien dice lo que
que
quiere
il n'avait pas
y
l'intention de
lo hace de
censurer
la
les
manera
médias.
que lui.
Chavez a critiqué d'ailleurs, il faut le dire en passant, très souvent l'image que les médias vénézuéliens donnent de sa politique, mais il n'est jamais intervenu, disons, pour censurer ou faire cesser de paraître un journal ou une télévision d'émettre, ça c'est vrai.
Alors, la transition est toute trouvée pour passer à votre projet particulier, qui est un projet de média alternatif, plutôt d'éducation populaire, comme tu le disais tout à l'heure. Finalement, même si ce n'est pas une alliance réelle, paradoxalement, dans ce cas-ci, les médias indépendants seraient plutôt les alliés du pouvoir et joueraient plutôt leur carte. Il s'agit d'une initiative de télévision, ça s'appelle Teletambores, ça signifie télétambour, pourquoi?
¿Por qué llamarse teletambores?
Bueno, Venezuela es un país, donde la gran mayoría de la población es
Venezuela, c'est un
descendiente
pays où
de
la
negros y
grande
de
majorité de la
negras,
population
fueron
descendent des
esclavos
esclaves
en la
noirs,
época de la
des
colonización,
Indiens beaucoup moins,
conjuntamente con otros grupos de
et
gente que
avec
vino
bien
de
sûr d'autres
Europa, de
groupes qui ont
Portugal,
métissé
de Italia,
la
bueno,
population
todos
depuis
los
l'Europe,
grupos
notamment.
colonizadores. En todo caso, el tambor tiene que ver un poco
Et
con
le
la cultura del
tambour
pueblo
a beaucoup
venezolano.
à
La
voir
fiesta del
avec cette
tambor, que es la
culture
fiesta de los
populaire
negros,
de la
y que el
fête de
tambor reúne
résistance des
gente.
esclaves. Et le
El
tambour
tambor es signo
réunit
de
les gens.
resistencia,
C'est donc un symbole de
sinónimo
résistance,
de cultura,
mais de culture aussi,
multietnia, y también es fiesta.
culture
También es
de
fiesta
plusieurs
y
peuples à
la
la
gente
fois.
se reúne en torno al tambor porque hay un llamado
Et cet appel du
que se hace a
tambour
través del tambor.
permet de
Por
réunir les gens.
eso la televisora se llama
C'est
Teletambor.
pourquoi cette télévision, qui a la même ambition, a décidé de se baptiser ainsi.
Alors, il s'agit d'un projet qui couvre juste la ville de Maracay, qui est, si j'ai bien compris, une ville plutôt moyenne au Venezuela, 300 000 habitants, quelque chose comme ça.
Disons que la ville fait un peu plus d'un million, mais les 300 000 habitants, c'est la population que touchera dans une première phase l'antenne qu'on va juger sur une des maisons d'un quartier populaire. La densité, la population fait que même sur un périmètre restreint, très vite, on a de très nombreux téléspectateurs potentiels. Puis le fait aussi que la télévision est omniprésente même dans les maisons les plus pauvres, fait que c'est une arme formidable et qui permet justement d'atteindre beaucoup, beaucoup de personnes.
C'est un des objets principaux qu'on trouve dans tous les foyers. Et donc tu en parles au futur, le projet n'a pas encore commencé, il commencera très bientôt, il me semble.
En décembre, on a fait précéder cette phase d'émission proprement dite par toute une série de rencontres avec les gens pour connaître leur idée de cette télévision, surtout aussi pour former un groupe en tant que tel de reporters communautaires avec une espèce de réflexion critique sur l'image dominante, bien sûr, car
Véhiculé par les médias.
voilà, les médias dominants, et ce n'est pas le cas du Venezuela seulement, on peut le trouver à Paris ou n'importe où, véhicule toujours des secteurs populaires ou des quartiers populaires, une espèce d'image très dénigrante, genre violence des banlieues, enfin vous connaissez ça très bien, et ça sert toujours des dessins plus obscurs qui servent à purifier ou hygiéniser les villes. Bien, donc, cette critique était présente dans les ateliers de formation des reporters communautaires qui vont créer une image du quartier telle qu'elle est vécue par les gens eux-mêmes. Donc, c'est tout différent. Et on a très souvent projeté leurs actualités dans les rues et petit à petit, le public du quartier
Donc
a...
avant même les émissions, c'était des projections ad hoc,
Voilà.
ponctuelles.
Voilà, qui ont vu grossir un public de tous âges et qui ont petit à petit proposé davantage leurs témoignages et leur participation. Donc, c'était vraiment une phase d'accumulation de force. Donc, pour arriver au moment de l'émission, à déjà avoir une espèce de participation maximale et d'appui à cette nouvelle chaîne.
Une organisation assez large, question logistique, pratique, ça ne doit pas être toujours évident.
En la práctica no es tan evidente toda esa organización, ese esfuerzo logístico. ¿Qué podrías decir
Puisqu'il y
al
a beaucoup de gens qui
respecto?
participent aussi,
Por
c'est
ejemplo,
pour
¿hay
fédérer tout
mucha
ça.
gente que participa
¿Y la
o
televisora?
sí?
Sí, del barrio sí. Del barrio
Dans le
es como
quartier, beaucoup
una
de gens participent
incorporación,
parce
como efecto
que
bola de
il
nieve.
y a donc cet effet boule
Este,
de neige, des gens qui
inclusive a través
participent
de
de
la
plus
gente
en
que
plus.
participa directamente dentro de la televisora. Inicialmente no había mujeres, ahora
Par
hay
exemple, au
mucha
début, il n'y avait pas
participación de
beaucoup
las
de femmes
mujeres
et
que son amas de
on a vu
casa,
très vite
mujeres del
que,
barrio,
au fur et à
y
mesure,
de hecho
les femmes
estas mujeres que se
qui restent au
capacitan a su vez son
foyer
capacitadoras para otros
se
grupos
sont
y realmente
mises en
cada día está
route pour
creciendo
organiser
más
la
el
télévision
equipo
et ce
que va a
sont elles, en
formar la
fait, qui sont
televisora,
devenues la
porque de
majorité
hecho
du
va a estar
groupe.
formado por gente del barrio. Dentro del barrio, dirigida por la gente
Et
del
bien sûr,
barrio.
c'est la communauté du quartier elle-même qui va diriger à la longue tous les aspects de
Sí,
la
ha sido
télévision.
muy buena la aceptación porque dentro de los medios tradicionales, la imagen del barrio
La
que se
réception
vende
et
es la
l'intégration a
imagen de
été
un
très bonne
pueblo
parce que
miserable,
justement les gens
violento,
en avaient un peu marre de
rojo,
cette
que hay
image violente, chaotique
delincuencia.
que leur
Es
renvoient
la
les médias
imagen
dominants.
de ese tipo de imagen, ¿no? En cuanto a la gente se ve
Par contre,
de
quand les
realmente
gens
dentro de su
se
realidad,
voient
que gente que se organiza, que
vraiment
hace
dans
cosas,
ces
que
images
produce,
de leur vie
entonces se sienten
quotidienne, dans leur
protagonistas,
réalité,
se
et ils
sienten
se
tomados en
sentent
cuenta y se sienten
les
personas.
protagoniste,
Entonces, eso
et
ha sido como una
cela
mecha que se ha
engendre
encendido
et
que
devient
sigue
une
creciendo.
mèche, allume toute une mèche de participation.
Justement, on en arrive là au contenu. Est-ce que le contenu des émissions sera exclusivement local ou bien ça s'échelonnera d'un niveau local jusqu'au niveau national, qui est tout de même le niveau du pouvoir par rapport auquel les gens manquent aussi d'une certaine image?
C'est un aspect très important et c'est un des aspects les plus révolutionnaires parce que la culture dominante a toujours non seulement reflété ce que la petite élite a bien voulu importer d'Europe ou des États-Unis, c'est-à-dire tout sauf la réalité vénézuélienne, mais c'est aussi par rapport au secteur populaire un grand effort d'occultation, de division, d'isolement. Or, cette télévision populaire a pour but de montrer aux gens des quartiers populaires de Maracay comment vivent les gens dans les quartiers populaires de Caracas et d'autres parties du pays. Donc, créer une image du pays, mais une image populaire, où les initiatives peuvent se multiplier, se rencontrer et donc renforcer l'organisation elle-même des gens.
On le devine en vous entendant parler que le financement ne doit pas être mirobolant. On suppose tout de suite que l'État n'arrose pas ça d'une grande manne de subsides. Vous faites tout ça avec des bouts de ficelle, avec des dons par-ci, des récupérations par-là?
Oui, en fait, par rapport à la solidarité depuis l'Europe, des amis cinéastes ou des groupes comme par exemple un groupe qui s'occuperait de projets dits du tiers-monde dans des écoles, ont apporté leur pierre. Mais ce sont vraiment, comme tu dis, des bouts de ficelle. Heureusement, nous bénéficions aujourd'hui d'une compression des coûts du matériel vidéo. On peut monter maintenant des films sur un ordinateur pour un coût moindre et sans comparaison avec ce qu'il était il y a 10-15 ans. Donc, nous profitons, si tu veux, de cette compression des coûts pour nous aussi inventer une télévision qui puisse au moins fournir une image de qualité. Et l'antenne d'une télévision locale n'est d'ailleurs pas non plus très chère, hein. Il faut penser environ à 8-9 000 dollars grand maximum pour avoir une antenne assez puissante, puisqu'on parle de 300 000 habitants, avec toute la connexion et la tour qui la supporte, hein, parce que la hauteur est importante. Donc tu vois, c'est vraiment très très peu de ressources nécessaires. Donc la solidarité a beaucoup joué, et une solidarité très horizontale, parce que les ONG en général, aujourd'hui, il faut bien le dire, et en Belgique, pour des raisons de politique intérieure, mais aussi en Europe, ont beaucoup perdu leur aspect communication horizontale, petits projets. Les macro-projets, malheureusement, sont ceux qui intéressent le plus les ONG, parce que c'est lié à des financements, des cofinancements de l'Europe. Donc, on veut toujours multiplier par deux, par trois, parce qu'il y a des marges, évidemment, bénéficiaires. Et c'est dommage parce que tout ça, c'est une politique qui est en train de dévier très fort ce qui devrait être le principe même de la coopération, qui est la solidarité. Aujourd'hui, on parle de rentabilité, on parle de. Enfin, tout ça est lié au marché de Tracht Bell et d'autres gros lobbies économiques et c'est dérisoire finalement. J'espère que bientôt les citoyens vont inventer une nouvelle génération de solidarité et d'ONG solidaires parce que sinon, on va finalement ne plus rien avoir. Comme rapport réel avec les populations.
Pour terminer rapidement, malgré votre aspect très local, il y a des synergies, pour utiliser un mot dans le vent, des synergies internationales que dès avant les émissions, vous êtes déjà en train de développer avec d'autres initiatives similaires, carrément partout dans le monde.
Hay otras colaboraciones, sinergias a nivel internacional entre Teletambores y otras
Sí,
fuentes.
a nivel de por lo menos de aquí de Europa,
Si on
en
parle par
esta
exemple
gira
de l'Europe,
solidaria que hemos hecho, ¿no? En busca de solidaridad,
notre voyage
hemos hecho algunos
a
convenios
permis
con
de
algunas
nouer
televisiones
des
acá.
accords
Aquí
avec
en
des
Bruselas, por
télévisions.
ejemplo, con la gente del Cine Nova,
Parlons par
hubo algunos
exemple
acuerdos de hacer
des amis
algunos
du
trabajos
cinéma
en
Nova,
conjunto. La
avec qui
gente
on
del
a prévu
SARA,
certaines
hay
collaborations.
un compromiso en cuanto a capacitación, ¿no? Que ellos puedan ir y
Par
nosotros
exemple,
podamos
d'autres
venir,
télévisions à
este intercambio de
Barcelone,
capacitación.
télévision gérée par des
Nos
femmes
vamos
qui
a ver
prévoient des formations en
pronto,
commun.
mañana, con una
On
gente de una
parlait
televisora libre de
à
París,
l'instant Sidhu Xara, qui est un atelier de
amarrar
production
algunos acuerdos
qui a
y
permis
con
aussi
una televisora libre
d'imaginer ces formations en
de
commun entre
Cataluña,
le
una
Venezuela et la
televisora
Belgique.
que se llama Clock TV, También
Et quant à la
hubo un
télévision de
convenio
Barcelone,
en
qui
hacer una página
est
web
basée sur un
común
long
para hacer
travail
algunos intercambios a
d'association de
través de
quartier,
Internet y hacer algunas
l'idée est d'échanger
producciones
des
a
images,
nivel de los barrios de Cataluña y los
justement
barrios de
entre les quartiers
Venezuela,
de Maracay
e
et les quartiers
intercambiar ese
de
tipo de producción,
Barcelone.
que son trabajos en conjunto. O sea que realmente hemos tenido
Donc on a
apoyo,
vraiment
inclusive apoyo de los
trouvé et
amigos y
ressenti des
de
appuis
amigos, el
très
caso de
amicaux
ustedes, el caso
souvent.
de otra
Tu
gente
es encore
que han sido muy
un exemple
solidaria.
de cette
Les damos las
solidarité.
gracias
Et
por ello.
pour cela, on te remercie.
Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie et surtout, je vous souhaite bon courage et surtout bonne chance aussi pour votre initiative. Je vous propose de rester en studio et je vais continuer après la musique avec l'actualité de la semaine. Mais vous serez libre d'intervenir à tout moment si vous avez un commentaire quelconque. Je vous le disais en début d'émission, l'actualité de la semaine et même du jour, si vous nous écoutez le mercredi, c'est l'élection présidentielle américaine la plus serrée de l'histoire, à en croire CNN. Quel que soit le résultat, cette élection était celle des fils à papa. Il y avait d'une part Albert Gore, fils d'Albert Gore, ancien sénateur, dont l'ambition jamais réalisée était, devinez quoi, de devenir président des États-Unis. Il était opposé à George Bush, fils de George Bush, ancien président des États-Unis et ancien directeur de la CIA. Un de ces deux hommes sera donc le prochain président, mais pour le perdant, pas de problème. Le fils de Gore s'appelle Albert, comme papa et grand-papa. Quant à Bush, il a un neveu qui s'appelle également George, comme tonton et grand-papa. L'avenir paraît donc simple. À partir de maintenant, les présidentielles américaines opposeront toujours un George Bush à un Al Gore. Plus sérieusement, il n'y avait pas que ces deux candidats-là, il y avait aussi Pat Buchanan, ancien journaliste de CNN et candidat d'extrême droite. Seulement Bush est tellement à droite que le vrai candidat d'extrême droite n'a pour ainsi dire pas eu voix au chapitre. À la gauche de Gore, il y avait Ralph Nader, le candidat du Parti des Verts. J'ai eu l'occasion de vous le présenter dans une émission précédente, mais pour les auditeurs dissipés ou ceux qui avaient lamentablement raté l'émission, je récapitule en bref. Nader est célèbre aux États-Unis en tant que pourfendeur des grandes industries et des multinationales. Son premier coup d'éclat fut d'obliger les grands constructeurs automobiles à prendre au sérieux l'aspect sécurité des voitures dont il se fichait complètement. Il a gagné au passage un procès retentissant contre General Motors. En bref, il a toujours été l'avocat du contrôle citoyen sur les grandes entités qui dominent les États-Unis, qu'elles soient industrielles, politiques ou judiciaires. Son programme pour l'élection présidentielle était radical, sans être du tout extrémiste. Ainsi, il proposait un meilleur contrôle sur les armes et non pas leur interdiction. Il proposait une réduction du budget de l'armée de 20%, ainsi que l'abolition du système de pots de vin légalisé, c'est-à-dire du financement des campagnes électorales par les entreprises. C'était d'ailleurs son credo principal dans un pays où les élections se gagnent à coups de millions de dollars. Ces dollars viennent du monde des grandes entreprises qui ne donnent évidemment rien pour rien. Le candidat, une fois élu, devra évidemment se souvenir de la générosité de ses donateurs et leur rendre de menus services en échange, services pas toujours si menus que ça d'ailleurs. Là où on comprend toute la perversité et tout le côté bidon de l'affaire, c'est lorsqu'on sait que bon nombre de ces entreprises arrosent les deux candidats et qu'elles s'achètent donc un avenir douillet, quel que soit le résultat de l'élection. Qu'on vienne encore me dire après ça que les États-Unis sont la plus grande démocratie du monde. En plus, même si on ne peut pas encore déterminer qui sera le prochain président, on sait par contre déjà qu'Al Gore a remporté environ 200 000 voix de plus que George Bush. C'est pourtant ce dernier qui risque fort de l'emporter. Voilà donc ce que certains appellent la plus grande démocratie au monde. Lorsque je vous avais présenté Ralph Nader, c'était une nécessité puisque les médias traditionnels ne semblaient pas connaître son existence. Ces deux dernières semaines, pourtant, la presse a découvert Nader, parce que son succès grandissant menaçait Al Gore, qui se retrouvait dépassé sur sa gauche. Il faut dire qu'il avait laissé pas mal de place sur sa gauche. Donc les médias ont enfin parlé de Nader, mais comme souvent, ils ont dit un peu n'importe quoi, sauf Le Soir, une fois n'est pas coutume, qui publiait hier un article très équilibré sur Nader. Je ne me suis pas amusé à relever toutes les inepties qui ont été dites, juste deux exemples. En parlant de Nader, RTL TVI a montré des images de Rick Lazio, le concurrent de Hillary Clinton pour l'élection au Sénat dans l'État de New York. Ça, c'est de l'ignorance, c'est encore bien innocent. Le pire, c'était sur la RTBF, dans le débat de l'écran témoin de lundi dernier. L'un des invités était François Hendricks, le président de la section de journalisme de l'ULB, qui est invité par tous les médias ces derniers temps pour donner son avis sur tout et n'importe quoi, du moment qu'on puisse y déceler un rapport quelconque avec les médias ou la communication. En parlant de Nader, Hendricks a dit que tout de même, attention, il ne fallait pas croire que les écolos américains sont comme ceux de chez nous. Et d'ailleurs, on trouve dans le discours de Nader des éléments populistes, du genre virer la racaille du pouvoir, bref, un discours qui vire parfois à l'extrême droite. Ce ne sont pas ses propos exacts, mais c'est bel et bien ce qu'il a dit. Ceux qui connaissent un tant soit peu Nader comprennent tout de suite que ce brave Hendricks ne sait pas très bien de quoi il parle. Pour commencer, Nader n'a rien d'un populiste, ni a fortiori rien à voir avec l'extrême droite. Comme on l'a dit, il est radical, mais pas du tout extrémiste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, quand on connaît le système électoral américain, quand on sait comment les candidats sont achetés par l'industrie, comme je viens de l'expliquer, on se dit que le terme de racaille est un bien faible mot, un mot que Nader ne se permet d'ailleurs même pas d'utiliser. Mais apparemment, quand on se permet de contester avec force et conviction un système bien installé, aussi pourri soit-il, on est un populiste qui vire à l'extrême droite. Ces dérapages sur Nader ne présagent rien de bon pour les jours suivants, au cas où c'est Bush qui l'emporterait, ce qui semble tout de même probable. L'analyse générale va être de dire que c'est Nader qui a fait perdre Gore et qu'il aurait dû se désister en faveur du candidat démocrate. C'est vraiment ne rien comprendre aux positions de Nader et ne pas vouloir regarder en face la situation qui prévaut. Il est évident que la perspective de voir Bush à la Maison-Blanche n'est pas agréable. S'il gagne, on peut s'attendre à voir remonter les budgets militaires, notamment pour construire le fameux bouclier nucléaire qui va coûter les yeux de la tête et dont le seul mérite éventuel sera de relancer la course aux armements et d'enrichir encore un peu plus les marchands d'armes. Pour la peine de mort, ce ne sera pas mieux, puisqu'avec le nombre d'ordres d'exécution qu'a signé Bush en tant que gouverneur du Texas, il est d'ores et déjà le plus grand tueur en série de l'histoire des États-Unis. On ne voit pas ce qui pourrait infléchir ce bel élan. Et puis en ce qui concerne le principal problème des États-Unis, à savoir l'élargissement du fossé entre une courte majorité de gens aisés, voire très riches, et une grosse minorité de pauvres, il ne faut pas s'attendre non plus à des avancées spectaculaires. On peut donc s'attendre à ce que tous les journaux bien pensants fassent des analyses prudentes, mais tout de même critiques et déçues de l'élection de George Bush. Tous les bien pensants auraient évidemment préféré Al Gore. À choisir entre les deux, moi aussi. D'abord, Gore est un type beaucoup plus intelligent que Bush et qui connaît infiniment mieux les dossiers cruciaux et même les dossiers tout court. Mais faire mieux que Bush là-dessus, c'est une prouesse à la portée du premier venu. Ensuite, Gore a une image beaucoup plus écolo et plus sociale que Bush. Avec Gore au pouvoir, la catastrophe serait limitée, tandis qu'avec W, on peut s'attendre au pire, d'autant plus qu'il semble que le Congrès et le Sénat seront de son bord. Donc, à choisir entre les deux, entre une catastrophe tout court et une catastrophe limitée, il est bien évident qu'on aurait tort de ne pas choisir Gore. Seulement, on l'a dit, il n'y avait pas que deux. Entre les républicrates, comme certains Américains appellent les deux candidats traditionnels, entre Gore et Bush donc, il y a bien des différences, mais ce sont plutôt de grosses nuances si l'on accepte de regarder les choses en face. Par contre, Nader est à mille lieues de ces deux-là. Il conteste le fond du système dont ils sont prisonniers tous les deux et il n'aurait donc pas pu se désister en faveur de l'un des deux. Si jamais les démocrates perdent cette élection sur leur gauche, ce sera une bonne occasion de se ressourcer et de réfléchir au pourquoi de cette défaite et peut-être même, on ne sait jamais, de tenir compte un tant soit peu des positions du Parti vert américain. Mais c'est mal parti, puisqu'en fin de campagne, les démocrates ont tout fait pour récupérer les électeurs de Nader en le dénigrant et en présentant chaque voix pour Nader comme une voix perdue. Le succès de cette campagne de dénigrement est en demi-teinte. D'une part, Nader a tout de même obtenu plus de 2,5 millions de voix, ce qui est considérable pour un candidat presque sans argent et auquel on a délibérément barré l'accès aux débats télévisés qui opposaient les candidats. D'autre part, ces 2,5 millions de voix ne représentent que 3% environ de l'électorat. Si Nader avait fait un score de 5%, il aurait eu droit pour sa prochaine campagne à un financement fédéral à concurrence de 12 millions de dollars, chiffre qu'il faut comparer aux 5 millions qu'il a pu rassembler pour la campagne qui vient de se terminer. Pas de financement donc pour Nader, et on peut donc gager que les républicains ont encore de beaux jours devant eux. Il n'y a pas que sur les politiciens que les industriels exercent un pouvoir malsain, les médias aussi sont atteints par cette chute à plat ventre devant tout ce qui a des sous. Un des rares médias de grande diffusion qui ne se met pas à plat ventre, c'est le magazine français Charlie Hebdo. Son rédacteur en chef, Philippe Val, a justement gagné il y a 3 mois un procès contre une maison de production qu'il avait censurée alors qu'il passait sur France 2. Et les propos censurés visaient justement le plus gros industriel de France, Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi, ancienne Compagnie Générale des Eaux, qui emploie 250 000 personnes dans plus de 100 pays et qui a des intérêts dans presque tous les secteurs, notamment la culture et les médias. Alors que ce procès était crucial pour la liberté de la presse, les médias n'en ont presque pas parlé. En Belgique, ils n'en ont même pas parlé du tout. Ce silence a irrité l'association des téléspectateurs actifs, l'ATA, qui a décidé d'inviter Philippe Val en Belgique pour qu'il vienne parler de cette affaire et plus largement des influences pernicieuses qu'exercent les médias sur les médias, le monde de l'industrie et des gros sous. Du coup, cette semaine, Philippe Val sera très médiatisé en Belgique. Il est déjà passé cet après-midi pendant 1 heure en direct sur la RTBF et vous le retrouverez dans ces jours prochains dans les colonnes de La Libre Belgique et du Matin. Lors de son passage en Belgique, j'ai donc eu l'occasion de rencontrer Philippe Valls cet après-midi et de l'interviewer pour vous, chers auditeurs. J'ai commencé, pour les hérétiques qui ne connaîtraient pas Charlie, par lui demander de situer la ligne rédactionnelle du journal. Et je m'excuse dès avant l'interview de la mauvaise qualité du son, vu que l'interview a été enregistrée dans le buffet de la gare, juste avant le départ de Philippe Valls. Comment est-ce que vous définiriez la ligne éditoriale de Charlie? On voit en lisant Charlie qu'il y a certains des collaborateurs qui sont plutôt libertaires, voire anarchistes. Par contre, vous et Cavana peut-être défendent au contraire une certaine idée de l'État. Est-ce que le vocable de gauche pourrait suffire à définir Charlie? Moi, ça me semble un peu maigre.
Précisément, c'est un journal de débat d'idées. C'est un journal satirique, mais surtout politique. Un journal de... Oui, à l'intérieur de... En fait, il y a une espèce de cadre, une sorte de charte dans le journal qui dit que le journal doit être fidèle aux idéaux des Lumières, aux principes de la démocratie et de l'égalité républicaine, antiraciste, luttant contre l'antisémitisme, enfin des principes comme ça, refuser que la souffrance animale soit un loisir. Et puis, à l'intérieur de ces quelques principes, on peut naviguer assez librement, parce que ça laisse pas mal de marge. En fait, ce sont des principes médiateurs entre nous. Ils sont toujours dans nos relations. Ils médiatisent des relations entre les membres de la rédaction, en quelque sorte. Ils sont comme la politesse dans la vie civile ou dans... Et ils sont intangibles, quoi. Après, bien, il peut y avoir des divergences qui sont parfois graves, enfin, bien sûr, qui sont parfois importantes, disons.
Et qui apparaissent dans les colonnes.
Mais pourquoi pas, elles peuvent apparaître dans les colonnes, enfin, tant que je suis là, elles peuvent apparaître dans les colonnes, en tous les cas.
Pour en venir à ce qui vous amène en Belgique, en fait, c'est à l'invitation de l'ATAC que vous êtes là, et c'est pour parler, pour un peu médiatiser le jugement du procès que vous avez gagné contre l'agence CAPA, contre la maison de production CAPA, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit?
Alors bon, faut que je raconte l'histoire. J'ai fait l'émission dans le service, enfin sur France 2, qui était produite par une société privée, que je ne savais pas d'ailleurs, qui s'appelle CAPA, qui a pour client, principal client Canal+, donc du groupe Vivendi, et ayant mis en cause dans le service public sur France 2, un peu, ayant émis des critiques sur le groupe Vivendi et nommé son président Jean-Marie Messier. Cette phrase a été coupée au montage. Alors, comme c'était sur le service public, j'ai réagi. Ça aurait été dans une chaîne appartenant à Vivendi, j'aurais rien dit, parce que c'est leur problème interne. Mais là, comme c'était la télévision de tout le monde, payée avec nos impôts, comme on dit, hein, service public, quoi, j'ai jugé utile de dénoncer cette coupe. Et la société CAPA a dit qu'elle était diffamée par mes propos. Elle m'a fait donc un procès en diffamation. Et que j'ai gagné, voilà.
C'est un procès qui est censé faire jurisprudence. Les attendus étaient intéressants.
Les attendus étaient intéressants et surtout c'était tout à fait historique parce que c'était la première fois que venait en débat, un, le problème que pose l'achat des émissions clés en main par les chaînes de services publics, l'achat d'émissions clés en main à des sociétés privées, ça pose ce premier problème. Ça pose donc le problème plus largement de la liberté d'information et de l'influence de la présence des grands groupes industriels dans les capitaux des sociétés de production et dans les médias. Puisque, après tout, ce sont des acteurs aussi politiques, ce ne sont pas que des acteurs économiques, puisque ça a des conséquences, leur existence a de grandes conséquences sur la vie publique. Donc, ça pose le problème de l'information quand on en a affaire sur eux. L'information. C'est la première fois qu'il y avait un procès sur ce thème en France, devant la 17e chambre. Et j'ai pensé que ça intéresserait plus de monde que ça. D'autant que le jugement, les attendus du jugement étaient vraiment intéressants. Ils disaient que c'était un débat utile à la démocratie, etc. Débat nécessaire en quelque sorte. Hein, bon. Mais ce débat n'a pas eu lieu. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il ait lieu, mais il n'a pas eu lieu. Voilà. Même les gens qui sont censés s'intéresser principalement à ce sujet-là, les rapports entre le monde du business et l'information et la culture, des gens comme par exemple mon camarade Serge Halimi, c'est le cœur de ses études. Il n'en a pas écrit une ligne nulle part, enfin, il n'a jamais fait écho de ça, ce qui est stupéfiant. Pratiquement personne n'en a parlé. Il y a eu des comptes rendus assez brefs dans Le Monde, Libé, Luma, France Soir, et puis après, fermer le banc. Même dans les chaînes publiques, où ça aurait dû faire l'objet d'une réaction, même dans l'émission de Schneiderman qui avait commencé à en parler quand l'affaire a éclaté, il n'y a pas eu une seule allusion au procès, à l'issue de ce procès, ce qui est quand même assez stupéfiant, qui montre bien comment marche doucement ce conformisme alimenté par la servitude volontaire.
C'est ça pour vous la raison de ce silence? C'est une servitude volontaire de la part des journalistes et de tout ce qui dépend de l'industrie?
C'est un peu plus nuancé que ça, mais oui, un peu, oui, c'est un peu ça, oui, quand même. On va pas s'emmerder avec cette histoire fatigante et compliquée. Voilà. Alors parlons d'autre chose. Parlons de PPDA qui a ouvert son journal sur le foot. Bon, c'est chiant, c'est vrai que PPDA ouvre son journal sur le foot, mais enfin bon, il n'y a pas que ça, quoi. Et PPDA est ami avec je sais pas qui, et puis Anne Sinclair est mariée avec je sais pas trop qui, et puis bon. Ouais, mais enfin bon, il n'y a pas que ça.
Il y a eu une absence de réaction donc assez étonnante apparemment de la part des médias. Par contre, le principal intéressé, Jean-Marie Messier lui-même, a réagi.
Lui a réagi parce que il sait qu'à terme, cette situation-là peut lui éclater à la gueule. Lui, il n'a pas du tout envie qu'on dise. Il censure tout. Lui, il a envie de dire je fais des choses qui marchent. Il n'a pas envie d'être vécu comme quelqu'un qui met en danger la démocratie. Donc, il a réagi beaucoup à cette affaire. Enfin, il a réagi en tous les cas. C'est un sujet qui le tracasse. C'est pas tant qu'il remette en question son système, mais il n'aimerait pas que son système montre cette image-là de lui-même, cette image-là de ce qu'il engendre, c'est-à-dire effectivement une servitude volontaire. Il n'a pas besoin de donner des ordres, messieurs. C'est implicite tout ça.
Il vous a donc concrètement écrit une lettre pour vous inviter à débattre. Quelle a été la suite que vous avez donnée?
On s'est rencontrés en privé deux fois et une fois en public la semaine dernière sur France Inter. Et il est question d'un débat de fond, d'un film qui va se faire vraisemblablement avec Jean-Luc Godard. Mais Jean-Luc Godard a posé comme exigence que le débat dure 25 heures en continu. Je vois bien pourquoi.
Pourquoi?
Très belle idée, parce qu'un débat, c'est. Un débat d'idées, c'est pas une demi-heure. Pour parler de deux visions du monde qui s'opposent, et pour comprendre aussi qu'il s'agit du même monde, que c'est pas deux mondes qui s'affrontent, mais c'est deux visions du monde, et que le monde dont il est question est commun aux deux, enfin, il faut du temps, il faut une sorte d'ivresse, de la longueur, de la lenteur, peut-être de la fatigue même,
Justement, 25 heures, ça tient même plus du marathon, c'est le triathlon. Est-ce que Jean-Marie Messier trouvera un trou dans son agenda?
Ah mais il a accepté. Il a accepté ce débat. Donc voilà. Mais ce qui prouve à quel point il y tient. Ça prouve à quel point il a compris que il fallait faire quelque chose, qu'il fallait convaincre qu'il n'était pas dangereux ou en tous les cas en discuter.
Vous le croyez de bonne foi, lui?
C'est difficile à dire, je le connais pas assez. Je pense qu'il a une inquiétude. il a une inquiétude parce que son système suppose, s'il veut rester là où il est, il faut qu'il soit le plus fort. Sinon, c'est plus fort que lui qu'il mangera. Mais c'est vrai pour des gens qui sont très, dans des conditions très, très, très simples, très pauvres. Ou très... Il veut un monde où, où, au bout du compte, quand même, c'est le plus fort qui bouffe l'autre. Peut-être qu'au fond, il sait bien que la logique de son système est comme ça. Et que peut-être que ça, au bout du compte, quelque part, au loin, dans un coin de sa conscience, ça l'inquiète.
Pour changer de sujet, vous parliez hier à Liège de la solitude de l'éditorialiste. C'est une solitude à laquelle vous avez pu goûter, peut-être un peu amèrement, je ne sais pas, notamment suite à vos prises de position sur l'intervention de l'OTAN en Kosovo, mais aussi sur certains autres sujets. En clair, en tout cas de l'extérieur, on a vu un certain camp quelque peu se désagréger, le camp Alimi Karl, etc., toute cette bande qu'on voyait autour de Charlie. Il y a eu apparemment une scission dont vous disiez aussi hier qu'elle était irrévocable.
Mais peut-être qu'elle était nécessaire aussi, parce que... Au fond, il est question d'un principe. Au moins, les choses sont claires. Mais ce n'est pas que ça, la solitude de l'éditorialiste. L'éditorialiste, il est condamné à être libre, sinon l'éditorial n'a aucun intérêt. Et en étant libre, il n'est pas forcément en train de dire ce que son camp veut qu'il dise. Il est condamné à faire retour sur sa solitude tout le temps quand il écrit. Même s'il déplaît, il n'est pas là pour plaire, il est là pour susciter quelque chose, susciter une réflexion, si c'est possible, enfin, s'il y arrive.
Cela dit, vous avez dû avoir une conscience assez flagrante de votre solitude, justement à propos de l'affaire du Kosovo. On vous l'a énormément reproché, on vous entend dire dans des interviews. Le propre du bon éditorialiste, c'est aussi de pouvoir dire « je me suis trompé » ou « je ne sais pas ». À ce propos-là, vous ne l'avez pas dit, donc on suppose que vous assumez tout ce que vous avez dit.
C'est-à-dire que c'est une cause, enfin c'est un dossier très compliqué, et comme tous les dossiers, il faut les instruire, comme ferait un juge d'instruction. Et au bout du compte, même s'il y a des tas de choses qui gênent, là-dedans, on choisit le moindre mal et on s'engage aux côtés de ce moindre mal. C'est ce que j'ai pensé faire. Voilà quoi. Aujourd'hui, Milosevic n'est plus au pouvoir, les Kosovars ont voté, ils ont voté pour un modéré, pour Rugova. On s'entretue à beaucoup moins que du temps de Milosevic dans les Balkans. Les Kosovars sont rentrés chez eux, ils étaient déportés quand même. T'imagines être déporté? Bon. Donc, je pensais qu'il fallait faire quelque chose. J'aurais préféré que ça soit autre chose peut-être, mais le fait qu'il faille faire quelque chose, qu'il faille intervenir, oui. Je continue à penser qu'il fallait intervenir.
Ça ne vous a jamais frappé non plus que ça s'est passé notamment...
Je vois pas pourquoi, si un ami me dit « il faut que tu dises que tu es contre l'intervention, sinon tu perds mon amitié », je l'ai de toute façon perdu parce qu'il veut me faire mentir, il veut me faire être quelqu'un d'autre que moi-même, donc je l'ai perdu. Alors autant perdu pour perdu, autant dire ce qu'on pense.
D'un autre côté, il y a quand même des choses qui ont été révélées après la guerre du Kosovo qu'on ne savait pas au moment de décider ou non de l'intervention et au moment de l'intervention elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui ont tout de même un peu infléchi votre prise de position ?
Ça continue à alimenter le dossier, mais de tout ce qu'on sait qui n'est pas propre, etc., il n'y a rien de décisif qui puisse faire dire qu'il ne fallait pas intervenir. Rien. Il y a des choses qui sont très choquantes, mais il n'y a rien qui me fasse. Il n'y a rien là-dedans d'assez fort pour que je. Il n'y a rien d'assez convaincant pour que je change d'avis. Enfin, il fallait une intervention. Après, les modalités, c'est autre chose. C'est un autre dossier. Toi, peut-être que tu voulais qu'en 1944, les Américains débarquent ailleurs, avec d'autres formes de bateaux, avec. Avec des armes d'une autre catégorie, Bon, ça, c'est un autre débat. Mais tu voulais qu'il débarque. Enfin, je suppose, quoi. Moi, c'est pareil, je voulais qu'il débarque. Enfin, j'étais pas né, mais toi non plus, mais rétrospectivement, on voulait qu'il débarque. On voulait qu'il libère les camps de concentration. Alors peut-être qu'on voulait pas qu'il passe par, par Poitiers, machin, etc., qu'il prenne plutôt la route qu'il passe par Angoulême. On peut en discuter, quoi, mais on voulait qu'il libère les camps.
En tout cas, dans le cas du Kosovo, pour certains, le remède a été pire que la cause, en tout cas, a fait plus de dégâts. Est-ce que c'est pas...
Les gens qui disent ça n'ont jamais été égorgés par des miliciens en raison de leur origine.
Ils n'ont jamais reçu de l'uranium appauvri sur la tronche non plus, mais ça ne les empêche pas de se mettre à la place.
Mais attends, l'uranium appauvri, ok, ça c'est un autre débat. Tu dis non, je veux pas de ça, moi aussi je veux pas de ça, mais faut pas confondre la victime et le bourreau. Jamais. Alors là, dans ce débat, on s'est trouvé en face de gens qui confondaient les victimes et les bourreaux. Et c'est un, à ce moment-là, on ne peut plus discuter parce que c'est la base du débat.
Vous dites aussi que, selon vous, en tout cas, les Américains et l'OTAN en général n'avaient aucune raison d'intervenir au Kosovo et qu'ils l'ont fait finalement un peu contre leur gré. En tout cas, on a dû insister pour les convaincre. Mais je suppose que vous avez quand même déjà remarqué les scénarios qui se font dans ce genre de cas. C'est-à-dire qu'on bombarde pour casser, et notamment des objectifs civils loin, enfin pas du tout seulement des objectifs militaires. Et après, quand la crise est passée et que le pays entre dans le giron de la communauté internationale, on voit débarquer des gros industriels, dont notamment Bouygues, qui est très fort à ce jeu-là. Est-ce que c'est pas une bonne raison, simplement aussi, pour l'Occident d'intervenir ?
Oui, mais enfin, on a vu la même chose à Brest. On a reconstruit Brest et il y a des entrepreneurs de travaux publics qui ont fait fortune en reconstruisant Brest aussi. Une fois de plus, c'est pas ça le débat. C'en est un, mais c'est un autre débat. Si aujourd'hui Bouygues prend des marges bénéficiaires en reconstruisant une école à Sarajevo, c'est un débat, mais c'est pas le même débat. Enfin, quand les Américains ont débarqué, par exemple en Normandie, ils avaient pour but, quand même, derrière la tête, ils avaient l'idée de mettre la France sous administration américaine. C'était donc une mauvaise raison qu'ils avaient, parmi les autres raisons qui n'étaient pas toutes, bonnes et mauvaises. Elles étaient, comme toi et moi, pleines de contradictions. Et alors, De Gaulle a mis des préfets partout, il a empêché les Américains de... mettre la France sous administration américaine. Le résultat, c'est que la France a été libérée. Alors peut-être qu'il y avait des mauvaises... Parmi les raisons du débarquement en Normandie, il y en avait peut-être des mauvaises, mais le résultat de cette décision politique, elle a été plutôt bon. La France a été libérée. Alors, on voudrait refaire l'histoire et dire non, parce que les Américains, on ne les aime pas. Bon, d'accord. Mais alors aujourd'hui, tu vis pas en démocratie. Merde. Tu vois, c'est les gens, ça compte, enfin. Moi, j'ai envie, dans la vie, de pouvoir m'amuser, d'aimer, d'avoir des potes, de boire des coudes. Enfin, je sais pas, moi, d'être heureux, de lire des bons livres, de m'instruire, de savoir, de connaître de la joie. Merde, je veux un monde comme ça. Je veux pouvoir vivre dans un monde où moi, un mec comme moi, peut trouver sa place. Sans me faire arrêter, sans me faire assassiner, égorger. Et je sais très bien que si je le veux pour moi, je suis condamné à le vouloir pour les autres. Alors si je le veux pour les autres, il faut que je pense quelque chose du collectif. Et que je pense au fait que ce qui menace l'autre est aussi ce qui me menace. C'est pas par grandeur d'âme, c'est simplement par logique. Voilà. Donc je veux pas qu'on déporte les Kosovars. C'est pas tellement que je suis amoureux des Kosovars. Je m'en fous, moi, des Kosovars. Comme des aveugles, des arabes, des kudjats, des homosexuels. En soi, toutes les communautés... Enfin, me sont indifférentes en tant qu'elles sont des communautés. Par contre, chaque individu à l'intérieur et les droits, ses droits à être aveugle, à être homosexuel, à être n'importe quoi, papou, soit absolument égaux aux droits de tous les hommes. Je vois pas pourquoi on aurait le droit de déporter des Kosovars, bordel. Hein. C'est pas possible, ça. C'est pour... Alors, il faut réfléchir en prenant compte de cette réalité-là. Il y a un seul monde, il n'y a pas le monde pur de la gauche radicale, etc. Et le bordel du monde qui est le mal et puis le bien de leur côté. Non, il y a un seul monde, enfin. Il faut faire avec. Alors les Américains débarquent en Normandie. Alors bon, les Américains sont impérialistes et tout, mais enfin, le jour où tu tombes à l'eau, si le pompier qui te fait le bouche à bouche sans l'oignon frit américain, est-ce que tu auras le courage de lui dire pas toi? Non, tu vas faire en sorte qu'il te réanime, tu vas lui dire merci, je suis pas d'accord avec vous, mais je vous remercie, je vis, je suis content, je vais pouvoir rebaiser, je vais pouvoir revivre, je vais pouvoir. Alors bon, on peut discuter maintenant sur vos motivations, mais en attendant, merci, ça va, je voulais que vous le fassiez. J'avoue que je voulais que vous le fassiez. J'avoue ça, c'est contre mes idées, mais je l'avoue.
Pour terminer sur la scission qu'on a vu apparaître dans le paysage.
Non, je l'avoue et ça modifie mes idées. Voilà.
Pour terminer sur la scission qu'on a pu voir apparaître dans le paysage gaucher de la presse française, il y a l'apparition de Pour lire pas lu, un petit journal de Pierre-Carles, Serge Halimi et leurs copains, etc. Comment est-ce que vous percevez ça? Parce que quelque part c'est contre-productif, quelque part c'est double emploi, vu qu'ils font de la critique de la presse, qui est une partie de votre boulot, et ils critiquent grosso modo exactement les mêmes gens.
Alors, moi c'est simple. Ça me touche pas vraiment beaucoup, cette histoire-là. Et je pense que les mots pensent, et que quand on emploie une rhétorique comme ils ont employé là-dedans, qui est celle de la presse d'entre-deux-guerres, la presse d'extrême droite d'entre-deux-guerres, d'accord. C'est qu'on a un petit problème dans sa relation à l'autre. C'est qu'on est un peu aussi dans la même façon de considérer celui qu'on veut éliminer. Et moi, ça m'intéresse pas, ça. Voilà. Pour moi, ça me touche même pas, parce que ce sont des attaques qui n'ont pas de sens. C'est... Si tu veux, si tu vois quelqu'un qui est paranoïaque et qui te dit tu es du KGB ou tu es je sais pas quoi et t'es en train de vouloir ma mort alors que t'es en train d'offrir offrir un verre à un ami et puis tu te rends compte que tout d'un coup il devient paranoïaque, tu dis bah moi je peux pas faire grand chose pour toi mais quand même, peut-être qu'il faudrait que t'ailles voir un psychiatre. Parce que tu vas être malheureux, c'est une sale maladie tout ça. Je vais essayer de le convaincre de se soigner. Enfin, de se poser des... Parce qu'il y a quelque chose de tellement dérisoire de s'attaquer à moi qui suis tellement pas important. Et de faire de moi un tel objet de haine alors que je suis jamais qu'un mec qui écrit dans son coin des choses qui n'ont qu'une importance relative. Quelle mouche les a piqués de faire de moi quelqu'un d'aussi important et d'aussi dangereux? Ça relève de la psychiatrie. Je suis ni dangereux ni important.
Voilà, c'est sur cette longue interview de Philippe Val qui nous a fait déborder un petit peu que se termine Alter Echo pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à nos invités pour leur présence dans ce studio. Et merci enfin à Marc d'avoir assuré la technique. À la semaine prochaine.